Kildin, histoire d'une méchante petite princesse, par Marie, reine de Roumanie. Deuxième cassette, première face, page 31. Chapitre 3. Kildin, princesse royale, allait de surprise en surprise. Les choses tournaient tout autrement qu'elle ne s'y attendait, et Kildin s'aperçut qu'elle n'avait pas apprécié à leur juste valeur ce qui lui avait appartenu. La nuit fatale de son arrivée, voyant qu'elle ne pouvait pas imposer sa volonté aux aigles, elle se mit en quête d'un lit. À tâtons, palpant les murs froids, elle descendit le rude escalier et atteignit une solide petite porte en fer, toute rouillée, dont la surface était recouverte de gros clous. Kildin, encore affamée, ne put s'empêcher de les comparer à de petites nonnettes, de petits pains d'épices, et une fois de plus, l'eau lui vint à la bouche. La porte céda sous sa pression, donnant accès à une petite chambre ronde, nue et vide, au milieu de laquelle se trouvait un grand nid. Non pas un joli nid moussu et douillet, mais un énorme amas de branches sèches, mêlé de quelques plumes, sans rien pour le rendre commode, moelleux, rien pour en faire un coin qui invite au repos. À la fenêtre cintrée, brûlait une seule bougie, dont la flamme vacillante projetait sur la muraille une ombre énorme, si énorme que la petite princesse en ressentit une vague d'inquiétude. Fidèle à ses habitudes impérieuses, Kildin cria à l'ombre de s'en aller, qu'elle n'avait que faire d'un long être noir et plat allant et venant sur les murs de sa chambre. « Va-t'en !» s'écriait-elle. « Tu es laide. Je ne t'aime pas. C'est ma chambre. Ce n'est pas une belle chambre, mais elle est à moi, et les gens n'ont pas le droit de venir dans la chambre des autres. C'est mal élevé, et je suis une princesse. Je peux vous faire punir si je veux. Vous n'avez pas un vrai visage ni une vraie forme. Vous avez la prétention d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Je ne veux pas de vous ici. Vous pouvez aller retrouver dehors ces horribles aigles et leur dire que je ne veux plus les voir parce qu'ils sont tous stupides et très méchants. Et quand mon papa, qui est un roi, reviendra, je lui demanderai de faire couper leur vilaine tête et lui dirai aussi que c'est honteux de ne me donner qu'une bouchée de pain à moi, princesse royale, moi qui avais l'habitude de jeter par la fenêtre toute la nourriture dont je ne voulais pas, à moi à qui personne n'en donne, maintenant que j'en veux. Quant à vous, vilain homme noir, allez-vous-en. Je ne tiens pas précisément à être seul, mais en tout cas, je ne veux pas rester avec vous. » Mais plus Kildin se montait, plus la grande ombre noire gesticulait sur toute l'étendue du mur. Quand Kildin s'arrêtait, l'ombre se calmait aussi. Mais l'enfant était las, trop las pour pousser plus loin sa colère. En dépit de son irritation, de son anxiété, de son tourment, la main apaisante du sommeil descendait lentement sur les grands yeux verts. Ses paroles devenaient confuses. La petite langue acérée commençait à bredouiller, les paupières aux longs cils se fermaient, et comme un petit animal exténué, Kildin se blottit dans le rude nid d'aigle en s'enveloppant dans les plis de son royal manteau. Elle s'endormit tout à coup, sans même remarquer que l'ombre agressive s'aplatissait contre le mur froid et nu. À son réveil le lendemain matin, l'ombre n'était plus là, en sorte que la vaniteuse petite fille se figura l'avoir effrayée de ses menaces et crut qu'elle s'était envolée par la fenêtre, pareille à un grand oiseau. Elle éprouva seulement un vague étonnement parce que la fenêtre était fermée. Kildin se sentait toute courbaturée car sa couchette avait été dure. Ses joues roses portaient encore les traces des brindilles sèches sur lesquelles elle s'était appuyée, ses cheveux étaient ébouriffés et ses vêtements tout chiffonnés. Ne s'étant pas dévêtue la veille, elle n'eut pas la peine de s'habiller, et n'ayant pas de peigne, elle ne put pas se coiffer, ce qui ne manqua pas de plaire à l'indocile petite princesse. Le moins agréable, c'était la sensation de vide dans son pauvre petit estomac. Il laissait entendre d'étranges sons, semblable au coassement des grenouilles dans un étang. Kildin regarda par la petite fenêtre et une fois de plus fut désagréablement impressionné par la tristesse des environs. « N'importe, pensa Kildin, je vais descendre et marcher sur cette lande désolée. Peut-être trouverai-je quelque chose qui m'amusera ou quelqu'un avec qui causer. car c'est lugubre vraiment de ne parler qu'à des êtres qui ne répondent pas. Et elle se rappela avec rancune les aigles et la grande ombre noire de la nuit précédente. Lorsque Kildine avait envie de faire quelque chose, il était rare qu'elle hésitât. Elle ouvrit donc la porte de fer et descendit l'escalier. Oh, l'effroyable quantité de marches, et si raide! Comme ses pieds résonnaient sur le granit, comme il y faisait noir et quelle odeur nauséabonde! À mesure qu'elle s'avançait, d'innombrables chauves-souris se détachaient des murailles avec des petits cris effrayés et volaient autour de sa tête. Cela n'avait rien d'agréable. Et Kildine entrevoyait avec épouvante le moment où les hideuses bêtes se prendraient dans ses cheveux. Malgré cela, elle ne voulait pas renoncer à son voyage de découverte et continua de descendre jusqu'à ce qu'enfin, avec un soupir de soulagement, elle atteignit le pas de l'escalier. Mais hélas, la porte qu'elle trouva après avoir tâtonné dans l'obscurité ne voulut pas s'ouvrir. Kildine poussa, frappa, donna des coups de pied, des coups de poing, se rua de toute l'impétuosité de son petit corps sur l'implacable métal. La porte refusa de bouger et ne trembla même pas sur ses gonds. Elle était fermée, il n'y avait rien à faire. Pour la première fois, Kildine s'aperçut qu'elle était sous les verrous, prisonnière, et que toute évasion devait être impossible. Amère découverte. Mais à quoi bon se mettre en colère? Qui était là pour écouter ses cris de rage, pour être témoin de sa bouillante indignation? Les chauves-souris continuaient à volter autour de sa tête. Les sombres bêtes se rapprochaient de plus en plus de son visage. Déjà, l'une d'elles avait frôlé sa joue de son aile froide et répugnante. Alors, saisie d'une indicible angoisse, ramassant ses longues jupes, Kildine s'élança dans l'escalier, plus haut, toujours plus vite, jusqu'au moment où elle crut que son cœur allait éclater dans sa poitrine. Enfin, elle atteignit la porte donnant sur la plateforme et l'ouvrit. Quelle horreur! Les aigles du soir précédent étaient perchés en rond sur le mur. Au-dessus de sa tête, de légers nuages, pareils à de petits flocons d'ouate, voguaient çà et là dans le ciel bleu. C'était un ciel amical et le soleil brillant dardait ses rayons sur les murs nus et gris. Kildine se souvenait de la façon dont les aigles l'avaient regardé la veille. Aussi, par prudence plus que par politesse, se rappelant les bonnes manières qu'on lui avait enseignées, elle fit à ses geôliers, à ses gardiens de prison, une profonde révérence. Révérence beaucoup plus cérémonieuse qu'elle n'avait jamais daigné en faire au roi son père. Un peu nerveuse, elle regardait autour d'elle pour juger de l'effet de son amabilité sur ses ennemis, lorsque ses yeux tombèrent sur quelque chose posé à terre. Avec un petit cri de joie, Kildine y courut. N'était-ce pas une grosse miche de pain, avec à côté un petit pot de forme étrange, plein de miel doré? Oh Dieu, quelle joie! Kildine sourit à ses taciturnes gardiens, et avec un visible plaisir, commença à mordre le pain à belles dents et à tremper de petits morceaux dans le miel. La princesse, j'en ai peur, ne mangeait pas très proprement. Le miel épais coulait sur son petit menton qu'elle essaya plus d'une fois de lécher avec sa petite langue rouge. Elle espérait seulement que les aigles ne critiqueraient point ses manières, car elle savourait vraiment trop son déjeuner pour s'inquiéter de la façon dont il était absorbé. Réconfortée par ce repas inespéré, elle se leva, jeta un regard circulaire sur les oiseaux muets et dit d'une voix forte « C'était très bon. J'aime le miel. Je ne m'étais jamais rendu compte combien j'aimais le miel. » À peine avait-elle prononcé ces paroles qu'il se passa une chose tout à fait inattendue. Kildine se sentit soulevée de terre, sous ses pieds battant la vide, la plateforme se dérobait de plus en plus. Elle constata avec terreur qu'on l'enlevait par-dessus le parapet de la tour et qu'il n'y avait plus au-dessous d'elle que le sol marécageux et plat. Mais en bas, tout en bas, elle ferma les yeux pour ne plus rien voir. Grand Dieu, que lui arrivait-il? Tout cela avait été si rapide, si inattendu, et juste au moment où elle s'apprêtait à dire des choses si aimables à ces fastidieux oiseaux au triste plumage. Vraiment, c'était bien ennuyeux, et sa position décidément trop dépourvue de dignité. elle éprouva quelque malaise à l'idée que ses jambes étaient visibles dans toute leur longueur aux nuages qui l'entouraient, et tournant un peu la tête, vit au-dessus deux grandes ailes brunes qui battaient. Derrière ces ailes, beaucoup d'autres encore. Mais Kildine ne put pas se retourner assez pour apercevoir qui l'emportait avec une telle vitesse. Alors, conformément à son caractère, elle commença à se fâcher très fort et à exprimer son mécontentement en termes qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne sais si les petits nuages blancs entendirent, ni s'ils se moquèrent de ses petites jambes gigotant dans le vide, mais certainement son vilain langage ne fit aucun effet sur le grand aigle brun qui la tenait dans ses puissantes serres d'acier. Et serres, S-E-2-R-E-S, tu sais que ce sont les griffes des oiseaux de proie, des aigles. À vrai dire, ce vol à travers les airs, sans rien au-dessous de soi, était vertigineux, et cette lande fangeuse ressemblait à un morceau de flanelle grise toute déchiquetée. Par-dessus le marché, il y avait de désagréables courants d'air, et ses mollets découverts étaient tout froids. Heureusement, l'idée ne lui vint pas que le grand aigle pourrait la laisser tomber, mais elle aurait souhaité qu'il fût plus poli dans ses procédés. N'aurait-il pu, du moins, l'inviter à chevaucher sur son dos, au lieu de la laisser pendre d'une manière si lamentable et si peu protocolaire? Et ses pieds se glaçaient, comme en plein hiver. Une fois de plus, Kildine regarda à terre. L'aspect du sol avait légèrement changé. La mer était nettement visible, grise et uniforme. Les crêtes blanches des vagues s'élevaient et se succédaient sans cesse. C'était une mer terne, sans une voile pour égayer l'horizon. Le grand oiseau commençait à descendre d'un mouvement glissant qui coupait presque le souffle à Kildine. Avant qu'elle se rendît compte de ce qui lui arrivait, elle sentit soudain ses deux jambes pendantes toucher le sol. Ses pieds se posèrent sur une plage de sable humide que d'innombrables petites vagues battaient dans leur vain désir d'envahir le rivage solitaire. Le soleil qui la ranimait si agréablement au petit matin avait disparu. Les nuages avaient tourné au gris. Tout était désert, triste, désolé. Les petites vagues, avec une persistance monotone, chantaient une morne complainte pénible à écouter. Kildine, ennuyée de leur fastidieux murmure, en voyant accourir vers elle une crête toute blanche d'écume, lui décocha un formidable coup de pied, ce qui n'eut d'autre résultat que de la mouiller désagréablement. Tous les aigles s'étaient posés à terre. Leur corps sombre semblait une ligne de petits rochers bruns le long de la côte. Un seul d'entre eux planait d'étrange manière au-dessus de l'eau, ses ailes immenses déployées. Bien que Kildine détestât ses compagnons, elle ne put qu'admirer la magnificence de ce vol. Oublieuse de tout le reste, elle suivit les mouvements du superbe animal qui tout à coup se précipita et fleura la surface de l'eau et prit dans son bec un poisson argenté et brillant. Un pauvre petit poisson. Puis, reprenant son essor, il s'éleva dans les airs, décrivant de grands cercles dans le ciel azuré, plus haut, toujours plus haut, jusqu'à ce que, dans une complète immobilité, il se laissa emporter par la brise comme une feuille. C'était un beau spectacle, et inconsciemment, l'enfant le suivait avec une attention ravie. Quelle joie ce serait d'avoir des ailes semblables! Mais ramenant son regard vers la terre, elle tressaillit en se voyant cernée par les 20 aigles et dans le voisinage immédiat et inquiétant de l'oiseau roi. Celui-ci allongea la tête et prit dans son bec le manteau rouge de Kildine. Indignée, elle tira sur l'étoffe, dont un grand lambeau resta dans le bec obstinément fermé de l'oiseau. La princesse contemplait avec rage son vêtement déchiré et s'apprêtait à exprimer hautement son mécontentement, mais elle n'en eut pas le temps. Elle se trouva tiraillée en tous sens, enveloppée d'ailes battantes, d'une forêt de plumes brunes, et eut l'effrayante vision d'une quantité de cerfs jaunes, de regards durs, de becs plus durs encore. Haletante, furieuse, des larmes de colère coulant sur ses joues, Kildine dut bien se rendre à l'humiliante évidence que les puissants oiseaux la dépouillaient de ses vêtements. Voici maintenant qu'il la déshabillait en plein vent dans un lieu où il faisait froid, humide et où n'importe qui aurait pu la voir. Déshabiller Kildine, la princesse royale. Elle restait là, frissonnante, couverte seulement d'une petite chemise atteignant à peine ses genoux. Ses atours royaux éparpillés autour d'elle ressemblaient à des fleurs fauchées. Et pour comble d'infortune, elle sentit que même son dernier vêtement lui était arraché. La princesse Kildine demeurait telle que le bon Dieu l'avait faite. Un petit corps tout rose et nu, sans autre voile que ses boucles ébouriffées. Ses yeux étincelaient d'une juste colère. Cette affreuse bise marine la secouait de frissons et lui donnait la chair de poule. Mais ce n'était pas tout. Kildine se sentit poussée vers ces terribles et impétueuses vagues. Nulle résistance n'était possible. Les aigles formaient une impénétrable barrière autour d'elle et toute protestation étant inutile, il fallut se résoudre à avancer. Déjà les flots avaient pris possession de ses orteils roses et les baisaient de leurs lèvres froides. Bientôt, ils montèrent jusqu'à ses genoux, puis léchèrent son petit ventre rond. Kildine essaya de crier, d'esquisser un mouvement de retraite, mais impossible. Il fallait avancer quand même, et c'était horrible. Cette vilaine eau montait toujours, elle avait atteint sa poitrine, et avec un sanglot de détresse, son Altesse royale se trouva au beau milieu de la mer houleuse, lavant les dernières traces du miel qui poissait encore son manteau. Ce fut un moment tragique et de mortelle horreur. Kildine se sentait comme une mouche dans une cuvette. Elle avait la certitude absolue que ses ennemis voulaient la noyer pour se débarrasser d'elle, pour la punir de tous ses péchés. Et alors Kildine, princesse royale, regretta tous les précieux avantages dont elle avait fait fi autrefois et qui maintenant lui paraissaient un rêve merveilleux dans un monde heureux et confortable au-delà du possible. Certainement, elle ne reverrait plus sa mère, ni son cher papa à la chevelure toute blanche. Oh, si seulement elle ne lui avait pas dérobé sa couronne. Pauvre, pauvre papa, comment pourrait-il être heureux sans couronne? Et tous ces petits poneys, les reverrait-elle jamais? Et le petit jardin rond au tournesol planté à sa naissance? Et toutes ces poupées avec leurs figures sans expression qui l'attendaient, rangées contre le mur? Oh, oh, voilà que l'eau salée entrait dans sa bouche. Un plongeon, un éclaboussement, un cri, des cheveux brusquement tirés, encore plus d'ombre, plus d'eau, plus de silence. Et les cheveux de nouveau tirés si fort que Kildine crut son cuir chevelu arraché. Enfin, elle se trouva hors de l'eau et resta là, tout en larmes, sur le sable sec, comme un misérable petit poisson rouge. Les affreuses petites vagues courroucées ne formait plus qu'une ligne mouvante à une respectable distance de l'endroit où elle était étendue. Mais la princesse Kildine avait pris un bain. La princesse Kildine était tout à fait propre. Un moment, elle resta sans bouger, le cœur plein de rancune, l'âme soulevée d'indignation. Jamais petite fille, à plus forte raison, Altesse royale, n'avait été traitée si ignominieusement. Sa petite poitrine était soulevée de ressentiment, et ses larmes mêlaient leur sel à celui de la mère qui collait encore à ses joues. Elle ferma les yeux et resta là sans mouvement, pareil à un lamentable petit paquet. Progressivement, une sensation plus agréable s'insinua dans ses membres. Elle avait moins froid. Quelque chose de chaud semblait la caresser doucement. Cela commença par ses orteils roses couverts de sable, puis s'étendit le long de ses jambes et enveloppa tout son corps. Kildine ouvrit les yeux. Au-dessus d'elle, le ciel était redevenu tout bleu. Le soleil perçait les nuages, semblable à un sourire. De longs et chauds rayons dardaient exactement sur l'endroit où elle gisait, et le sable autour d'elle en scintillait comme de la poudre d'argent. La princesse s'assit. Ses boucles couleur de rouille étaient pleines de sable et de petits fragments d'algues marines demeuraient attachés à son corps. Ses yeux lui cuisaient, elle éprouvait à ses oreilles un picotement inusité, mais ne frissonnait plus. Tout autour, il y avait une quantité de coquillages aux mille couleurs, de toutes les formes, de toutes les grandeurs. Oh, les jolis petits coquillages! Kildine se pencha, en prit une petite poignée et se mit à les examiner l'un après l'autre avec ravissement. Les uns avaient la couleur du corail, la forme d'un éventail, D'autres étaient ronds comme des pois et jaunes canaries, d'autres longs en spirale et tout blancs. Il y en avait de pointus à l'éclat argenté, de gros, tout bleus et tout gris, de plats, de polis, de transparents comme du verre. D'autres avaient la forme et la couleur des feuilles d'automne, beaucoup l'apparence laiteuse et unie de l'ivoire. À cette joie nouvelle, toute rancune fut oubliée. Bientôt Kildine s'étendit à plat ventre, ses doigts plongeaient dans le sable sec, découvrant sans cesse un trésor inattendu. Le soleil, du haut du ciel, regardait cet étrange petit animal rose se traînant à quatre pattes sur la plage, ne pensant plus à autre chose qu'à sa joie. Les rayons bienfaisants avaient séché le petit corps et la touffe de boucles brillait comme du métal poli. Oui, toute peur était oubliée dans l'immense délice de la chasse aux coquillages. À chaque pas, des merveilles nouvelles apparaissaient à la lumière. Déjà, ses mains étaient si pleines qu'il fallait jeter les premières trouvailles pour faire place au nouveau trésor. Ses habits formaient un petit tas coloré non loin de là, mais Kildine n'y pensait plus. Elle avait bien assez chaud maintenant, et il était beaucoup plus agréable de n'être gênée par aucun pli, entravée par aucun falbala, de n'avoir le souci d'aucune étoffe de prix pouvant se tacher ou se déchirer. Kildine avait tout à fait oublié les aigles, ne levant même pas la tête pour voir comment leurs grandes ailes battaient le ciel radieux, ni comment ils planaient, gardiens silencieux de l'endroit où l'enfant royal rampait, le nez tout près du sable. Parfois, leur grande ombre tombait sur elle, mais Kildine n'y prenait pas garde. Comme un bébé, elle s'absorbait dans la joie du moment. L'air devenait de plus en plus chaud. Le soleil faisait étinceler la mer, et lorsque Kildine la regarda, elle s'était changée, là où la marée baisait le rivage, en un merveilleux tapis d'azur bordé d'une frange d'argent. Kildine ne pouvait plus prendre de coquillages, ses mains en étaient pleines, et n'ayant pas de poche, étant en costume d'Ève, c'est-à-dire toute nue, elle se mit debout, minuscule figurine sur la vaste plage, et regarda la mer. Elle n'en avait plus peur maintenant. Comme elle était belle et souriante et bleue, bleue comme le grand saphir qui pendait à la rivière de diamants dont s'ornait le cou de la reine Guanara. En songeant au saphir, Kildine en même temps pensa à sa mère. Et inconsciemment, elle soupira, puis regarda les jolis coquillages dont ses mains étaient pleines. Quel dommage qu'il n'y eût là personne à qui les montrer. Quel silence, quelle solitude. Que pouvait faire sa mère en ce moment? Et son père, cherchait-il toujours sa couronne? Qu'allait-elle manger pour son déjeuner? Et qui la servirait? Et en quel endroit? Alors Kildine se souvint des aigles, se rappela comment on l'avait transportée, se remémora la tour, le dur nid de brindilles, se ressouvint qu'elle était prisonnière. Regardant au-dessus de sa tête, elle vit ses ennemis, ombre noire contre le ciel bleu. Et soudain, toute sa joie s'évanouit. Ses mains s'ouvrirent et les coquillages aux nuances brillantes tombèrent en un petit tas multicolore sur la grève. Chapitre 4. De gré ou de force, Kildine recevait plus d'une leçon. Elle ressentait l'amertume de la vie et peu à peu comprenait combien les choses qui lui avaient appartenu naguère étaient précieuses. Ici, il ne s'agissait plus de se révolter. Ses froncements de sourcils, ses menaces, ses larmes, ses colères, tout était inutile. Bec grands ouverts, serres d'acier, voilà les seuls arguments employés contre ses oublis des convenances. D'abord, son caractère humain et despotique la poussait à défier cette incompréhensible tyrannie. Mais elle apprit à ses dépens que toute désobéissance était vaine et que les châtiments corporels s'ensuivaient infailliblement. Toute sa dignité et son assurance de princesse s'effondraient sous les coups de bec qui la tenaient en respect. Car sur les marches du trône, aussi bien que dans la rue, l'argument auquel nul enfant ne résiste est celui de fait et non de mots. Cette théorie que Madame Vox Populi avait été seule à soutenir, les aigles l'avaient immédiatement découverte. Sur un seul point, Kildin gardait sa supériorité, sa langue. Ses geôliers étaient muets. Ils ne pouvaient répondre à ses insultes, et l'enfant royal exprimait maintes fois ses sentiments dans un flot de paroles d'un genre fort répréhensible. C'était sans contredit un spectacle des plus comiques que Kildin, tranquillement assise sur l'un des bancs de pierre, ses yeux verts singulièrement durs, égrenant tous les mots bizarres qu'elle avait pu entendre. Elle en inventait d'autres au besoin lorsqu'il ne lui en venait plus à la mémoire, et quelquefois ce qu'elle débitait n'avait plus du tout de sens. Kildin, disions-nous, s'asseyait sagement sur un banc, car elle avait appris à ne plus se démener comme au premier jour. Les aigles avaient trouvé le moyen de mettre un terme à ses emportements. Ils s'élançaient du haut de la muraille sur l'enfant qui trépignait et l'entouraient de leurs énormes ailes battantes jusqu'à ce que, éblouie, exaspérée, étourdie, excédée, elle se jeta la face contre terre pour ne plus voir et ne plus entendre. Aussi, petit à petit, renonça-t-elle à cette manière vulgaire d'exprimer son mécontentement. En apparence, du moins, son Altesse royale était devenue plus douce. Mais son cœur n'était pas encore apaisé. La révolte y demeurait tout au fond, et le regard de ses grands yeux était loin d'être celui d'un ange. Autre secret découvert par la princesse, elle était mieux nourrie lorsqu'elle se montrait souple et docile. En petite personne futée, elle comprit bientôt qu'il convenait d'être particulièrement aimable lorsque son estomac était vide. Le temps lui semblait long au sommet de cette tour désolée. Personne pour s'amuser avec elle, personne à commander, personne à tourmenter, pas de jouets à casser, peu de choses à manger, pas de foule en adoration devant elle, aucun sourire de bienvenue, pas de fleurs, pas de poney, aucun changement. Kildin sombrait dans l'ennui. Son profond ressentiment contre ses gardiens l'avait empêché jusqu'ici de leur parler sur un ton amical. Elle ne s'était adressée à eux qu'avec une fureur mal contenue ou avec une politesse ne venant certes pas du cœur. Mais un après-midi, la matinée avait été longue et solitaire, et pour tout amusement, elle avait fait des dessins sur le sol avec de petits éclats de granit tombés du mur. Kildin accueillit avec une sorte de plaisir le grand oiseau roi qui apparut soudain sur la tour, sa silhouette énorme se détachant majestueusement sur le ciel. Fin de la première piste de la deuxième cassette, page 47, Kildin, histoire d'une méchante petite princesse, par Marie, reine de Roumanie.